dans Jacques au chapitre 5, et on va lire les versets 19 et 20, mais juste avant ça, on va prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alors Seigneur, nous te rendons grâce pour cet instant, pour ce moment que tu as suscité pour nous, afin que nous plongions nos regards dans ta parole. Merci Seigneur, car cette parole ne retourne pas à toi sans avoir porté le fruit pour lequel elle a été proclamée. Et nous savons, nous reconnaissons que cette parole a un effet dans notre vie. Elle nous instruit, elle nous nourrit, elle nous dicte le chemin à suivre et elle modèle nos vies. Alors nous prions que cette parole reçoive un bon accueil, qu'elle soit accueillie dans une terre qui est propice à porter du fruit qui t'est agréable, dans une terre qui lui est propice pour une croissance optimale. Et qu'en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance, que toute la majesté, la louange, l'adoration te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Bénis ma sœur, bénis mon frère et bénis le canal, Seigneur, que je suis, que tu utilises ce matin pour transmettre ta parole. En toute chose, que ton nom soit élevé. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous. Dans Jacques au chapitre 5 et le verset 19 et 20. Bien entendu, on a étudié les versets 16, 17 et 18 lundi et dimanche, si on recule un peu plus loin. Mais depuis hier, on étudie donc le verset 19 et 20, qu'on complétera bien entendu vendredi. Donc la Bible nous dit au verset 19 dans Jacques au chapitre 5, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Je répète, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Et la phrase importante pour nous aujourd'hui, c'est « et qu'un autre l'y ramène, et qu'un autre l'y ramène ». Hier, on a vu qu'il était effectivement possible pour qu'un frère s'égare et aille se perdre. Et on disait que Jacques tenait à tout prix à ce que ce fait soit clair dans la pensée de l'Église, afin non seulement d'intercéder les uns pour les autres, mais aussi afin de se positionner par rapport à ce frère ou à cette sœur qui pourrait pendant un certain temps, ou qui pourrait à partir d'un certain jour, dévier des voies du Seigneur. Et on voyait combien il était important de comprendre que oui, ça peut arriver effectivement qu'un frère délaisse les voies de Dieu, qu'il s'en éloigne et qu'il aille se perdre. Et c'est tellement une réalité que Jacques voulait à tout prix que l'Église sache quoi faire. Donc dans cette semaine de restauration, Jacques s'adresse effectivement à l'Église pour lui dire « voilà le travail que tu dois faire ». En contrepartie d'hier, si Jacques effectivement hier avisait qu'un frère pouvait effectivement s'égarer, aujourd'hui, il déclare à l'Église, il déclare à ses auditeurs et à ses lecteurs qu'il est aussi possible de réchapper un frère et de permettre à ce frère de retrouver le bon chemin. Il est encore possible, il est possible, qu'un frère s'éloigne, oui, mais il est tout à fait possible qu'un frère qui s'est éloigné retrouve le bon chemin. Alors, comme premier point aujourd'hui, je vous dirais que l'enseignement de la grâce et l'enseignement de la restauration est une partie prenante du message de l'Évangile. Il serait inapproprié de condamner le péché sans parler de la restauration qui est possible en Christ. Il serait inadéquat d'enseigner qu'effectivement un frère, une sœur puisse s'éloigner de Dieu et perdre son salut sans qu'on enseigne de surcroît à cela que le salut peut être restauré dans la vie de quelqu'un. Le message de la grâce, le message de la restauration, se doit d'être enseigné, se doit d'être accepté et se doit d'être vécu par le corps de Christ. Et c'est trois choses différentes, ou trois choses différentes. On peut effectivement enseigner la restauration, mais que ce message-là ne soit pas accepté. Et je doute qu'il y en ait parmi vous qui soient dans cette position-là, mais je sais qu'il y a certaines écoles de pensée, certaines écoles de théologie qui croient que lorsqu'on quitte le Seigneur, on ne peut pas revenir à sa grâce. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, la question de la restauration, la question du rétablissement d'un croyant qui aurait chuté, est tout à fait abordée et enseignée clairement. Dans l'Ancien Testament, on va nous dire que le juste tombe sept fois, mais que sept fois il se relève. Dans les petits prophètes, un des prophètes va dire « Si je suis tombé, mon ennemi, ne ris pas de moi ou ne te réjouis pas, parce que je me relèverai. » Et lorsqu'on parle de tomber ici, on parle effectivement de cette position rétrograde où j'étais dans une position adéquate avec Dieu et je m'en suis éloigné, où j'étais dans une position effectivement où j'étais dans la crainte de Dieu et de là j'ai chuté. Dans les deux cas dans l'Ancien Testament et dans ces passages qu'on vient de dire, on parle de la restauration effectivement de celui qui a fauté. Que l'on parle d'un grand personnage biblique, quel qu'il soit dans l'Ancien Testament, ils ont tous connu des failles, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, que ce soit Abraham, le père de la foi, que ce soit David, qui était comme le plus grand roi de l'histoire d'Israël, chacun d'entre eux ont eu des moments de faille et chacun d'entre eux ont eu l'occasion d'être restauré. Même dans le cas de Caïn, qui va être le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité, lorsqu'il offre son sacrifice à Dieu, sacrifice qui est refusé, Dieu va lui dire que s'il se repent, que s'il fait mieux, il pourra effectivement relever la tête. Donc la notion de restauration existe depuis le début des temps, que ce soit même avec Adam et Ève. Certains pensent que le salut de Christ est arrivé après le péché initial d'Adam et Ève. C'est vrai que dans le fonctionnement, dans le processus et dans le calendrier humain, il est arrivé effectivement plus tard dans les générations humaines qui ont succédé. Mais la Bible nous dit qu'avant même Abraham, Jésus existait déjà. Jésus en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu qui se fait homme, en tant que divinité, Jésus existe de tout temps, Jésus est éternel. La pensée de Dieu dans le salut et dans la restauration de l'humanité a toujours existé avant même qu'Adam et Ève n'aient existé, donc avant même qu'ils n'aient commis le premier péché, Dieu avait déjà pourvu, Dieu avait déjà pensé, Dieu avait déjà suscité celui qui serait le Messie, celui qui serait le sauveur de l'humanité en la personne de Jésus-Christ. Donc la notion de restauration se doit d'être acceptée et se doit d'être enseignée. De surcroît à cela, elle se doit aussi d'être vécue. Très souvent, les gens adhèrent à une croyance de façon intellectuelle, mais dans le pratico-pratique du vécu de tous les jours, il est parfois une autre histoire. Il y a certaines personnes qui, oui, croient à la restauration, mais avec des limites. Il m'est déjà arrivé de parler avec quelqu'un qui me disait, « Florent, moi, » et c'était un serviteur de Dieu, qui me disait, « Moi, Florent, lorsque un pasteur est tombé dans l'immoralité, lorsqu'il est tombé dans l'adultère, je ne crois plus qu'il puisse être pasteur. » Parce que lorsqu'il va devoir enseigner aux couples comment fonctionner et comment rester fidèle et tout ça, il n'aura pas la crédibilité pour se faire. Moi, je crois que la restauration veut dire la restauration. Et lorsqu'on parle d'une restauration, Christ ne fait pas une restauration partielle. Dieu ne fait pas une restauration limitée. Dieu fait une restauration totale. Alors, si on croit qu'effectivement le juste tombe et qu'il se relève, si on croit que Dieu pardonne, alors nous, en tant qu'humains, nous devons aussi accepter que Dieu peut tout à fait restaurer quelqu'un dans ses anciennes gloires et dans son ancien mandat. Lorsqu'on parle de la parabole du fils prodigue, de ce fils qui va s'éloigner du chemin de Dieu, de ce fils qui va quitter la maison de Dieu, lorsqu'on étudie ce texte, on se rend compte que non seulement il va dilapider tous ses biens avec des gens de mauvaise vie, qu'il va même se mettre à travailler auprès des pourceaux, lui qui est un juif, donc auprès ou dans un contexte qui est anti-biblique selon la pensée judaïque. Et pire que cela, lorsqu'il revient à la maison, on se rend compte qu'il est déchaussé. Et être déchaussé dans la culture de l'époque était réservé aux esclaves, donc ceux qui ne portaient pas de chaussures, puisque le papa, lorsqu'il va le recueillir, va mettre des chaussures à ses pieds, ben on se rend compte qu'il est maintenant esclave d'un maître qu'il a fui ou qu'il a quitté. Donc le père, lorsqu'il reçoit son fils à la maison, le libère de l'esclavage parce qu'il met à ses pieds des sandales, le nettoie, le sanctifie, le purifie, met sur lui la plus belle des robes. Et lorsqu'on parlait de la plus belle des robes, on parlait aussi de la robe qui lui était appropriée. Donc il le restaure dans sa dignité, il le restaure dans l'état qui était le sien autrefois, et de surcroît à ça, il lui met un anneau au doigt. Et cet anneau, seulement les membres de la famille en autorité pouvait porter cet anneau. Donc le père replace ce fils prodigue dans son standing, dans son standard d'autrefois. Donc lorsqu'on parle de la restauration, on ne peut pas prêcher une restauration à moitié. Il se pourrait qu'avec le temps, il se pourrait qu'avec le fonctionnement des choses, Dieu amène son serviteur rétabli à d'autres activités, vers d'autres mandats. Ça se pourrait que enrichi de l'erreur, de la grâce et de la restauration qu'il a connue, Dieu puisse l'utiliser dans des avenues différentes d'autrefois. Mais lorsqu'on parle de la restauration, ben on doit concevoir qu'il est tout à fait biblique et tout à fait possible que quelqu'un qui a chuté soit restauré dans les fonctions qui étaient les siennes autrefois. Pensons simplement à Pierre. Pierre, et je le mentionnais dimanche, Pierre va renier son Seigneur, va le faire en présence de Jésus, va faire pratiquement aussi pire que Judas. Mais lorsque Jésus ressuscite, une des premières phrases qu'il dit aux femmes, c'est d'aller aviser les autres. Et Pierre, de façon bien précise, dit à Pierre et aux autres que je les attends en Galilée. Donc Dieu est là en train de restaurer Pierre, le premier qui va se lever pour faire un discours grandiose le jour de la Pentecôte. Qui est-il? C'est encore Pierre. Donc le message de la grâce doit être accompagné du message de la restauration, et cette restauration peut être tout à fait totale, complète, et ramener la personne à son stade initial avec Dieu. Pourquoi je dis peu? Peut-être. Donc, la possibilité que. C'est parce que Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Mais de surcroît à ça, lorsqu'on parle de ramener, dans le texte d'aujourd'hui, quelqu'un qui ramène un frère, c'est le terme épistrepho. Donc, E-P-I-S-T-H-R-E-P-H-O. Épistrepho, je répète, E-P-I-S-T-H-R-E-P-H-O, pour ceux qui prennent des notes. Épistrepho a deux sens. A le sens ramener quelqu'un vers une chose, donc détourner quelqu'un d'une voie qu'il suit pour le ramener en arrière, mais de surcroît à cela, c'est aussi l'action personnelle de se tourner vers quelque chose. Donc le retour et la restauration a deux parts. Il y a, en fait, il y a même trois parts. Il y a la part qui appartient à Dieu, il y a la part qui appartient à l'Église, puisqu'ici Jacques enseigne à l'Église qu'elle doit jouer son rôle dans la restauration et dans le retour dans les voies de Dieu de celui qui s'est perdu. Mais de surcroît à ça, on ne peut nier, on ne peut passer outre la responsabilité de la personne. Nous pouvons enseigner la restauration. Nous pouvons prêcher la restauration, nous pouvons pousser la restauration, nous pouvons promouvoir la restauration, mais cette restauration ne peut survenir qu'avec un cœur repentant et avec une décision propre de la personne qui s'est éloignée. On ne peut pas forcer le salut sur quelqu'un, on ne peut pas forcer la restauration sur quelqu'un. On ne peut pas forcer le retour de quelqu'un à Christ. Et voilà pourquoi je suis obligé d'utiliser le terme « il peut y avoir une restauration », donc le conditionnel, parce que ce retour vers Christ est conditionnel à la décision et au choix qu'une personne prend. Au même titre où je le disais hier, qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. On peut prier pour lui, on peut l'exhorter, on peut effectivement lui parler du Sauveur et du Seigneur, mais on ne peut pas prendre la décision à sa place. Et le retour vers le Seigneur est effectivement une décision personnelle. Nous, en tant qu'Église, on est là pour appuyer, on est là pour encourager, on est là pour fortifier par nos prières, par nos actions, par notre affection, par la grâce, par le pardon que l'on témoigne. Mais en bout de ligne, la décision reste partie prenante de la personne qui s'est elle-même initialement éloignée. Donc, épistrepho, oui, veut dire se tourner vers Dieu, mais ça reste une décision personnelle de la personne qui s'est éloignée. De surcroît à cela, et je le mentionnais hier, ici, Jacques va dire à l'Église, voici ce que vous devez faire. Si parmi vous, il se trouve quelqu'un qui s'éloigne, qu'un autre l'y ramène. Cet autre-là est où? Cet autre-là est parmi vous. Donc, Jacques est en train de parler à l'Église, Jacques est en train de parler aux frères. Donc, il est possible pour nous d'aider, il est possible pour nous de contribuer, voire même de contribuer fortement au retour de quelqu'un. Le Père, lorsqu'il accueille le fils prodigue, il est un agent facilitateur pour le retour du fils prodigue à la maison. Le fait que le père court vers le fils lorsqu'il le voit s'amener au loin, la Bible nous dit que le père va courir vers lui, va l'embrasser, et on nous dit par la suite donc qu'il va mettre une nouvelle tunique sur lui, qu'il va mettre des chaussures à ses pieds, qu'il va mettre un anneau à son doigt, qu'il va tuer un veau gras pour faire la fête et célébrer ce fils qui était mort, qui est retourné à la vie. Mais il y a un autre agent, et cet agent-là pourrait ne pas être facilitateur, et cet agent, c'est le frère aîné. Ce frère aîné qui, lorsqu'il entend qu'il y a une fête qui est organisée en l'honneur du fils qui est retourné, et en fait, c'est même pas à l'honneur du fils, mais c'est en l'honneur du fait qu'il était mort, et il est maintenant vivant. Donc, on célèbre un événement heureux. Mais ce fils aîné, le frère aîné de ce fils prodigue, lui est frustré. Et la Bible nous dit qu'il ne veut même pas entrer dans la maison pour célébrer ou pour partager le repas. Et le père est obligé d'aller le voir et lui demander, mais c'est quoi le problème? Et le fils va lui dire, mais regarde, moi j'ai été avec toi tout ce temps-là et tu ne m'as même pas donné un agneau, un chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis, mais celui-ci vient d'arriver, il a été un sujet de honte, il a dilapidé tout ce que tu lui avais donné, et voilà, tu organises une fête pour lui. » Et le père va lui expliquer, « Mais ton frère était mort, et aujourd'hui, il est vivant. Est-ce qu'on ne doit pas célébrer pour lui? » La Bible ne nous dit pas ce qui va se passer avec le frère aîné, est-ce qu'il va entendre raison, puisque c'est une parabole, c'est pas un fait qui s'est passé, c'est une histoire que Jésus va raconter pour illustrer un enseignement. Mais pour toi et pour moi, est-ce qu'on a l'attitude du père ou on a l'attitude du fils aîné? Alors, est-ce qu'on est un agent facilitateur dans le retour à la maison du fils prodigue ou on est un agent répulsif, qui repousse, qui tient au loin celui qui voudrait revenir à la maison? Et voilà pourquoi il est tellement important de parler de ces notions actuellement dans l'Église, parce que je sais ce que Dieu est en train de faire, je sais comment Dieu est en train de toucher des âmes, je sais comment ces événements qui sont survenus avec la pandémie et tout ça amènent plusieurs à réfléchir, à reconsidérer les voies tortueuses sur lesquelles ils se sont aventurés et par lesquelles ils se sont éloignés de Dieu. Mais il faut que ces gens, lorsqu'ils vont faire initier ce retour vers la maison, je prie qu'ils puissent trouver en toi, qu'ils puissent trouver en moi, qu'ils puissent trouver dans l'ensemble de la congrégation, et je prie pour une majeure partie de l'Église avec un grand E, qu'ils puissent trouver des frères et des sœurs qui sont prêts à les entourer avec grâce, avec pardon, avec affection, avec amour, et leur témoigner toute la grâce du Père et non pas le côté abject du Fils aîné. Donc, et ça, c'est une décision aussi, au même titre où il est une décision de la personne elle-même de retourner vers la maison, il est aussi une décision pour ceux de la maison, de l'attitude qui va être témoignée envers le frère, la sœur qui a chuté et qui maintenant revient vers la maison. Je disais dimanche que je ne peux pas garantir l'attitude de tous et chacun. Parce que chacun d'entre nous, on est maître de nos paroles, on est maître de nos actions, on est maître de nos attitudes. Mais je prie que l'enseignement qu'on donne ce matin, que l'enseignement que l'on donne cette semaine, nous permette à ceux qui sont dans la maison d'avoir l'attitude qui se doit, d'avoir le comportement qui se doit, d'avoir les caractéristiques qui se doivent afin d'être des agents facilitateurs du retour à la maison. Demain, on va voir quels sont les bénéfices de ramener quelqu'un à la maison, quelles sont les gloires à tirer qui découlent du retour d'un frère ou d'une sœur à la maison. Alors, sachons une chose, oui, il est possible d'être restauré. Pour toi qui m'écoutes, qui te serais éloigné des voies de Dieu et qui est en train de réfléchir à savoir est-ce que je reviens ou je ne reviens pas. Hier, je vous expliquais, tu ne peux pas aller à l'encontre de ce que tu as déjà déclaré comme étant vrai. Tu peux t'en éloigner, mais au fin fond de ton cœur, tu sauras toujours ce que tu as déjà déclaré comme étant vrai. Et ce questionnement et ce dilemme en toi va subsister jusqu'à la fin de tes jours. Subsister parce que tu as reconnu une chose vraie et par la suite, tu as décidé de la laisser et de t'éloigner. Donc, ce questionnement et cette inquiétude par rapport à l'éternité ne peut pas te lâcher. Ce faisant, c'est Christ qui appelle ton nom. C'est le Seigneur qui t'appelle à revenir à la maison. Je prie que tu aies l'audace. Je prie que tu aies le courage. Je prie que tu aies la sagesse de rentrer vers la maison. Comme ce fils prodigue qui comprenait qu'il ne servait à rien de faire perdurer son départ et qu'il était préférable de rentrer à la maison avec tout ce qu'impliquait rentrer à la maison. Et il a été surpris de la restauration que Dieu lui a accordée, que son père lui a accordée. Alors je prie que toi aussi tu puisses connaître cette même expérience de restauration. Mais pour toi qui es à la maison, pour toi qui es encore là? Ben, un, que ce soit un avertissement. Il se pourrait que tu te retrouves aussi dans une même situation où tu chutes. Je prie que là encore, tu aies la sagesse de te relever et de revenir auprès du Seigneur. Mais si tu ne chutes pas, si tu restes effectivement fidèle à Dieu, je prie que tu ne tombes pas dans la religiosité du pharisien qui se tape ou qui se pète les bretelles plutôt en se disant « Merci Seigneur que je ne suis pas comme un publicain, que je ne t'ai jamais laissé, que je ne t'ai jamais abandonné, que je continue à jeûner et à prier, que je donne ma dîme et que je fais tout ce qu'un chrétien doit faire. Et merci Seigneur de ne pas être comme celui qui est tombé. » Je prie que tu n'aies pas cette attitude-là. Je prie que ton attitude soit celle du publicain qui comprend que il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien si ce n'est en raison de la grâce de Dieu. Tu es chrétien, tu es sauvé, tu prétends au salut, tu prétends à la vie éternelle en présence de ton Seigneur et de ton Sauveur. Tu œuvres même dans l'œuvre de Dieu, tu travailles même pour le Seigneur. Tout cela n'est qu'une grâce. Une grâce que tu as reçue alors que tu étais perdu, toi aussi avec des vêtements déchirés, toi aussi avec des chaussures qui avaient été enlevées, qui étaient disparues, toi aussi avec des vestiges sur toi de ton ancienne vie, là où tu ne glorifiais pas Dieu. Mais par la grâce de Dieu, tu as entendu parler du Sauveur, tu t'es tourné vers lui et sa grâce t'a été accordée. Alors je prie que la même grâce qui t'a été accordée, que tu puisses aussi en faire preuve envers ton frère et ta sœur, non seulement qui sont loin, mais aussi ceux qui reviennent vers la maison. Nous sommes des graciés, nous serons pour le restant de l'éternité des graciés, des gens qui ont été bénéficiaires de la grâce de Christ. Ne l'oublions pas. Et lorsqu'un frère rentre vers la maison avec sa tunique tachetée, avec sa tunique salie, déchirée, avec ses pieds nus et son anneau qui a été perdu, n'oublions pas que nous étions comme lui. Alors favorisons, facilitons et bénissons son retour à la maison. Alors c'était cela qu'on avait pour nous ce matin. Et je prie que ça ait été une source de bénédiction pour toi qui nous écoutes ce matin. Alors laissez-moi prier pour vous pour cette journée. Après ça, quelques petites recommandations et quelques salutations. On est nombreux encore ce matin. Donc merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour le message de la grâce, le message de l'Évangile. Et merci Seigneur pour le message de la restauration. Merci Seigneur, parce que qui que nous soyons aujourd'hui à élever notre voix vers toi, nous avons été bénéficiaires de cette grâce. Et cette grâce est encore accessible pour nous qui chutons encore régulièrement. Et pour ceux, Seigneur, qui sont partis au loin, nous prions, Seigneur, que tu continues à frapper à la porte de leur cœur. Que tu continues, Seigneur, à les interpeller. Et que se tournant vers toi avec un cœur repentant, ils puissent pleinement bénéficier de ta grâce et de ta restauration. Seigneur, je prie pour moi, mais aussi pour mes frères et mes sœurs, et pour l'Église que nous représentons en tant que corps local, mais aussi pour l'ensemble du corps de Christ. Fais de nous, Seigneur, des facilitateurs du retour à la maison. Lorsque mon frère, ma sœur qui s'est éloignée, fait cet effort, parfois douloureux, complexe, difficile, pour rentrer à la maison, que nous soyons là pour les accueillir avec joie et que nous soyons là, Seigneur, pour faciliter leur retour parmi nous. Merci, Seigneur, de nous enseigner et de couvrir cette parole par ton onction, par l'onction, par la pluie de ton esprit, avec cette parole, Seigneur, s'enracine à nous, en nous. Et croisse jusqu'à porter un fruit qui t'est agréable, de ce côté-ci de l'éternité, mais aussi, Seigneur, pour l'éternité tout entière. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, quelques salutations. Comme j'ai dit, vous êtes nombreux ce matin. Toujours honoré de vous avoir parmi nous et de vous savoir présent. Merci d'être là. Bonjour à la sœur Teresa. Bonjour à la sœur Dora. Bonjour à Eric. Bonjour à Lalande et à Landry. Bonjour à Jimmy. Bonjour à Maggie. Bonjour à Chantal et à Léo. Bonjour à Ozani. Bonjour à qui d'autre? À Juan Alberto. Bonjour à Diana. Bonjour à Karine. Bonjour à Denise, Liliane, Saint-Louis. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Bonjour à Consuelo et à Jean. Et je crois que c'est tout pour ce matin. Bonjour au pasteur Joyal qui se joint à nous à l'instant, vers la fin, mais content de l'avoir. Si vous voulez voir l'enseignement du jour, ça restera disponible sur Facebook. Donc, je vous rappelle, c'est important, les inscriptions pour ceux qui veulent assister à l'assemblée directement sur place dimanche. Donc, vous pouvez le faire si vous avez 12 ans et plus. Pour des raisons de distanciation sociale, on ne peut toujours pas accueillir les enfants parmi nous à l'église. Mais si vous avez 12 ans et plus, on vous invite donc à être là ce dimanche. Pour ce faire, vous devez vous inscrire. Les places sont limitées. Donc, vous écrivez soit par courriel à secrétariat EAJC, en un seul mot, pas d'accent. À commercial@gmail.com. Donc, je répète, secrétariat EAJC, @gmail.com. Ou vous nous appelez au numéro du secrétariat au 514-273-8295. 514-273-8295. Et vous nous laissez votre nom, votre numéro de téléphone ou votre adresse courriel. Il faut que l'un et l'autre soient valides pour qu'on puisse vous contacter. Et vous nous indiquez le nom de toutes les personnes qui vous accompagnent. Et ces personnes-là, bien sûr, doivent être âgées de plus de 12 ans comme vous et ne pas manifester de signes grippaux, bien entendu, comme c'est la norme actuellement pour tout rassemblement. Donc, vous avez 12 ans et plus. Vous ne présentez pas de signes grippaux ou grippal, donc vous nous écrivez ou vous nous appelez au numéro puis à l'adresse courriel de l'Église. Alors sur ce, encore une fois, merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc ce soir avec le pasteur Sergio pour l'étude biblique sur servir Dieu en temps de défi. Et puis pour nous, on se retrouve donc demain matin pour la suite de notre semaine sur la restauration dans les bénédictions matinales. Donc, inscrivez-vous pour l'assemblée de dimanche et puis soyez présents ce soir et demain matin pour la suite des choses. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.